l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Figeac. 97.7.
Soyez les bienvenus dans ce magazine Présence Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec Anne-Rose Jonkovi qui n'est pas aujourd'hui en studio mais qui est du côté de Maubourguet. Bonjour Anne-Rose.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Alors si vous n'êtes pas avec moi en studio aujourd'hui, c'est pour une raison bien particulière puisque vous assistez au lancement du denier de l'église pour le diocèse de Tarbes et Lourdes, un denier cette année décentralisé.
Exactement. Le diocèse de Tarbes et Lourdes a décidé cette année de passer d'un lancement de campagne annuelle qui est en général lors d'une soirée pour tous à la maison diocésaine à des lancements de campagne décentralisés. Comment ça s'organise? Eh bien, tout simplement, l'équipe de l'Economat, la commission ressources, les personnes qui portent le denier dans le diocèse de Tarbes et Lourdes vont à la rencontre des habitants, des paroissiens de chacun des territoires de nos 10 nouvelles paroisses. Et c'est le cas ce matin, donc, à Maubourguet, là, au moment où je vous parle. La réunion se termine tout juste. Alors, depuis ce matin, pendant 3h, il a été question de fidéliser les donateurs et puis aussi toujours d'être plus proche et plus au service pour que le denier ait vraiment du sens sur le territoire. Voilà. Et cette campagne, elle démarre avec 14 000 enveloppes d'appels aux dons qui vont être distribuées dans les jours prochains partout dans le territoire des Hautes-Pyrénées. Les donateurs sont invités à soutenir l'église dans les Hautes-Pyrénées.
Voilà, vous êtes donc du côté de Maubourguet et cet après-midi, j'ai cru comprendre que vous alliez du côté de Mascaras, puisque cette petite commune également a une actualité.
Bien sûr, cet après-midi, il s'agira pour moi de mettre le nez dans le patrimoine religieux, puisque dans le village de Mascaras, l'église a été rénovée, a fait l'objet de chantiers de restauration et de rénovation. Je vous raconterai tout ça quand j'en saurai plus, puisque voilà, cet après-midi, je vais de ce côté-là pour faire un petit reportage que vous pourrez entendre la semaine prochaine, Gilles.
Exactement, alors je rassure les auditeurs, on va quand même pouvoir vous entendre dans quelques minutes, puisqu'il sera question sur notre antenne de pastoralisme.
Oui, vous savez-vous, Gilles, que 145 000 hectares de surface pastorale collective existent dans les Hautes-Pyrénées, le département des Hautes-Pyrénées est le troisième plus grand espace pastoral en France. Et nous allons en parler dans quelques instants avec Véronique Lombard. Elle a enseigné pendant très longtemps au lycée agricole de Vic-en-Bigorre. Elle est spécialiste, peut-on dire, du pastoralisme. Elle va nous expliquer de quoi il s'agit en tous les cas. En attendant de l'entendre, retenez bien ce chiffre, 145 000 hectares de surface pastorale collective sont dans les Hautes-Pyrénées. C'est vraiment énorme. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique dans le territoire et dans la gestion du territoire? Véronique Lombard nous dira tout dans quelques instants.
Voilà, on apprendra un peu plus sur le pastoralisme et notamment sur la définition. Et j'ai même appris qu'il y avait une formation en Bac plus 3 en pastoralisme.
Exactement, une formation diplômante, une licence spéciale qui vous rend spécialiste du pastoralisme. Parce que effectivement, derrière le mot pastoralisme, il y a beaucoup de choses liées au territoire, mais il y a des métiers surtout. Véronique Lombard nous explique tout ça donc dans l'interview que je vous propose d'écouter dans quelques minutes.
Exactement. Merci Anne-Rose Jonkovic. Et dans un instant également, on va prendre la direction de Bayonne pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. C'est l'agenda béarnais avec Violaine Ricourt-Dumas qui sera en duplex. J'entends les cloches, c'est les cloches de Maubourguet?
Tout à fait, puisque je me trouve en ce moment dans le jardin du presbytère de Maubourguet, donc vous entendez des cloches de l'église. Exactement.
Très bien, voilà. Allez, pour le moment, dans ce Présence Midi, on débute avec Lou Denneville pour les titres à la une de l'actualité régionale. Lou Denneville est étudiante au sein de l'école de journalisme et de communication de Blagnac.
Face au risque de fermeture de Fibre Excellence à Saint-Gaudens, les élus se mobilisent pour faire pression sur l'État. Alors que l'entreprise traverse une crise majeure, la ville et la communauté de communes s'apprêtent à voter une motion de soutien. Au cœur des inquiétudes, le coût de l'électricité, le maire de la ville s'est exprimé sur le sujet et demande à l'État de revoir le tarif à la hausse de manière immédiate pour sauver l'usine. Deux exploitations agricoles aveyronnaises vont recevoir une indemnisation pour les pertes de récoltes liées à l'orage de grêle d'août dernier. Sont concernées l'arboriculture et la viticulture de Mostuéjoux les Rivières-sur-Tarn, dans les départements de l'Aveyron, au titre de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale. L'association Rebond et la fondation du groupe EDF annoncent la signature d'une convention de mécénat sur 3 ans, destinée à soutenir le projet Essai au féminin. Ce programme socio-sportif a été mis en place en faveur de l'éducation, de l'insertion sociale et de l'émancipation des jeunes filles issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville en Occitanie. Enfin, la 16e édition de l'Altitoy Millet, plus grande course d'alpinisme des Pyrénées, est annulée à cause d'un trop-plein de neige. Cette étape essentielle de la grande course 2026, prestigieux circuit international de la discipline, devait regrouper les plus grandes épreuves d'endurance de la saison dans les massifs du Tourmalet, du Pic du Midi et de Luz-Ardiden.
Merci Lou Denneville. Voilà, on me retrouve à 12h30 pour développer ces titres dans le journal complet. Je rappelle que vous faites partie de l'école de journalisme et de communication de Blagnac. Dans quelques minutes, on va donc parler de pastoralisme avec Véronique Lombard au micro d'Anne-Rose Jankovic. Mais pour le moment, direction Bayonne.
Radio Présence à Moissac, 93.3.
Bonjour Violaine Ricourt-Dumas.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Comme toutes les semaines, on vous retrouve pour l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron, l'agenda béarnais. Pour commencer, on part à Naye avec la communauté des Béatitudes qui nous invite ce samedi à une journée spirituelle.
Tout à fait, c'est à l'occasion de la fête de la lumière ou fête de présentation de Jésus au temple. La communauté des Béatitudes nous propose cette journée spirituelle, c'est samedi à partir de 10h et donc on va passer du temps avec le Seigneur, lumière dans nos vies, vous êtes la lumière du monde. La journée donc se déroulera à la communauté à Naye, donc c'est 18 Côte-Saint-Martin à Naye et ça se terminera avec les Vêpres de la Résurrection et si on veut on peut rester pour le dîner et un temps de danse d'Israël. Vous savez, la communauté des Béatitudes de Naye a des liens avec la religion juive et donc propose ces danses d'Israël. C'était assez particulier et ça vaut le coup de vivre cette expérience. Donc n'hésitez pas, samedi, si vous ne connaissez pas encore la communauté des Béatitudes à Naye, de passer avec eux cette journée spirituelle lumière à l'occasion de la fête de la présentation au temple. En fait, c'est la fête de la lumière ou la chandeleur d'ailleurs.
On poursuit cet agenda avec cette invitation de Monseigneur Haye à tous les fiancés qui se préparent au mariage dans le diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron.
C'est pour tous les fiancés, effectivement, qui vont se marier dans l'année. C'est la 3e édition de cette journée qui est organisée par la pastorale de la famille en présence de Monseigneur Haye. Donc, pour tous les fiancés qui se préparent au mariage dans le diocèse, qui vont venir passer un temps de témoignage, de louange, de partage. Il y aura une table ronde également et une bénédiction des fiancés à la fin de la journée. C'est vraiment un beau moment pour tous ces fiancés qui se préparent au mariage. Ça se passe à Pau, à l'ensemble scolaire Immaculée Conception, toute la journée de samedi, de 9h à 17h. On peut encore s'inscrire, si on a oublié de le faire, sur le site du diocèse, www.diocèse64.org. Vous avez une actu journée des fiancés. C'est samedi à Pau, donc pour tous les fiancés du diocèse, n'hésitez pas, c'est vraiment un beau moment à vivre en couple avec d'autres couples de fiancés. Je crois qu'ils sont une quarantaine, donc ça vaut vraiment le coup pour cette journée des fiancés samedi.
Voilà, notez également qu'il y a la présence de couples parrains hein, qui sont également invités à participer, hein, des couples mariés qui donnent leur témoignage.
Tout à fait, toute la journée, en fait, les couples sont accompagnés par des couples parrains, donc plus âgés, qui ont quelques années ou beaucoup d'années de mariage. C'est le principe de cette journée des fiancés, d'être parrainé par ces couples.
Voilà, la date, c'est ce samedi 31 janvier, donc il faut se dépêcher si on souhaite y assister. On poursuit cet agenda avec la pastorale familiale du diocèse et la communauté de l'Emmanuel qui vous invite à participer à des veillées pour la vie.
Tout à fait, c'est grâce à la présence du sanctuaire Notre-Dame du bout du pont à Pau, qui a été érigé sanctuaire il y a maintenant un an et demi à peu près, érigé sanctuaire par notre évêque. C'est donc à Notre-Dame du bout du pont, c'est vraiment à la limite entre Jurançon et Pau, et donc il y a régulièrement des veillées pour la vie et la famille qui sont proposées, vous le disiez Gilles, par la pastorale de la famille et par la communauté de l'Emmanuel. Donc on prie, on loue, on adore, on bénit les familles, et donc ce sera la prochaine, ce sera le 3 février, donc le 3 février c'est mardi prochain, c'est à partir de 20h30 et ça dure jusqu'à 22h, donc veillée de prière pour la famille et pour la vie au sanctuaire Notre-Dame du bout du pont, la prochaine sera au mois de mai.
On poursuit l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescarré-Oloron avec ce lundi, le lundi 2 février, journée de la vie consacrée.
Tout à fait, en fait c'est la même chose que la journée de la lumière, ou la journée de la présentation de Jésus au temple, ou la chandeleur. Finalement c'est une journée pour la vie consacrée, je crois que c'est Jean-Paul II qui avait institué cette journée. Tous les consacrés du diocèse sont appelés à se rassembler, à prier ensemble, donc on va prier pour eux lundi prochain, 2 février, donc pour cette journée de la vie consacrée, et puis c'est à cette occasion que la communauté des Béatitudes proposait cette journée pour tous samedi, donc fête de la lumière, fête donc des consacrés du diocèse.
On poursuit cet agenda avec cette conférence sur le thème « Faire corps par les églises et la liturgie ». Cette conférence sera donnée le vendredi 6 février prochain.
C'est dans le cadre du cycle sur le corps, « Faire corps », point d'interrogation, le cycle proposé par Foi et Culture et les paroisses du Nord de Pau qui, chaque mois, nous propose une conférence à l'église Saint-Paul de Pau qui se trouve au Nord de Pau, 262 boulevard de la Paix. Vendredi prochain, 6 février, ce sera... l'historien docteur en histoire de l'art Emmanuel Garland qui viendra nous parler sur le thème faire corps par les églises et la liturgie. Donc on va parler des églises et donc de la liturgie, en quoi ça nous aide à faire corps. Ce sera donc vendredi prochain, 6 février, à 20h à l'église Saint-Paul-de-Pau. À noter qu'on peut toujours réécouter ces conférences sur le site foi-et-culture64.fr. Donc on peut les réécouter en vidéo, mais c'est toujours mieux de venir sur place pour pouvoir aussi poser nos questions. Donc rendez-vous le 6 février prochain à 20h à l'église Saint-Paul-de-Pau pour cette conférence « Faire corps par les églises et la liturgie ».
Voilà pour une partie de l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescarré-Oloron, l'agenda béarnais. La suite, eh bien, on la retrouve sur diocèse64.org.
Tout à fait, vous allez donc sur le site, vous allez dans l'onglet agenda, là vous retrouvez toutes les infos du diocèse. Si vous voulez zoomer sur le Béarn, vous cliquez sur le petit drapeau béarnais et vous retrouverez toutes ces infos et d'autres, et toutes les coordonnées bien sûr, pour pouvoir participer à ces événements.
Merci Violaine Gourdumas, je rappelle que vous êtes la responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne-Lescarré-Oloron. Un grand merci, on se dit à très vite sur Radio Présence.
Merci Gilles, et bonne semaine à vous.
Présence.
Et restez avec nous, dans un instant on va essayer de comprendre ce que signifie le mot pastoralisme avec Anne-Rose Jankovic et son invitée. Elle reçoit Véronique Lombard qui a été professeure au lycée agricole de Vic-en-Bigorre dans le département des Hautes-Pyrénées.
Radio Présence à Foix 100.2. Les podcasts de Radio Présence.
Podcast de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Bonjour Véronique Lombard.
Bonjour.
Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de pastoralisme. Vous avez été professeur au lycée agricole de Vic-en-Bigorre. Vous avez notamment participé à l'enseignement d'une licence spécialisée pour le pastoralisme. Il faut savoir, il y a une formation, un bac plus 3, vraiment dédié au pastoralisme. Nous en parlerons en fin d'émission. En tous les cas, aujourd'hui avec vous, on va essayer de comprendre de quoi on parle. On va s'intéresser en particulier au pastoralisme montagnard. Mais d'abord, est-ce que vous pourriez nous donner une définition un petit peu large de ce qu'est le pastoralisme, et puis on va se recentrer sur le pastoralisme montagnard, notamment celui qu'on connaît ici dans les Hautes-Pyrénées.
Donc le pastoralisme, c'est l'ensemble des activités d'élevage où on conduit les troupeaux sur des ressources spontanées, c'est-à-dire de la végétation qui pousse spontanément, mm-hmm. en tenant compte des conditions du territoire. En particulier, à certains moments, ces ressources ne sont pas disponibles. Et donc, le pastoralisme nécessite une transhumance pour aller sur des territoires qui soient accessibles à certains moments.
Ça veut dire, quand il neige, c'est pas possible. Donc, on bouge, on va ailleurs. Si c'est trop sec, c'est pareil. Il n'y a rien pour les bêtes. On bouge, on va ailleurs.
Voilà. Et aussi quand c'est trop humide, par exemple dans les marais atlantiques, où on peut aller que dans des périodes où c'est assez sec, parce que sinon c'est trop humide.
Quand on vous entend donner cette définition, Véronique Lombard, on se dit qu'en fait finalement c'est, pardon pour l'expression, mais c'est du bon sens paysan, tout simplement. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça ?
Oui, mais les paysans, ils n'avaient pas trop le choix. C'est tous ceux qui habitaient en zone de montagne ou proche des montagnes. Ils avaient besoin de ressources pour leurs troupeaux. Et ces ressources, elles étaient à certains moments en estive. Sinon,
parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités.
Il n'y avait pas d'autres possibilités. En bas, il fallait faire les foins pour l'hiver ou les cultures pour la famille. Dans les zones intermédiaires, il fallait faire aussi les foins. Mmh. Et puis en haut, il y avait de l'herbe, mais qu'en été.
Donc c'est une manière d'occuper le territoire, à la fois pour les bêtes, mais aussi pour l'humain, quoi. Mmh.
Oui, avec des déplacements, des bêtes, des troupeaux et des hommes.
Depuis quand on parle de pastoralisme ? Ça a toujours existé ?
Les premiers troupeaux, il y a eu des recherches qui ont été effectuées dans les montagnes et les premières traces de pastoralisme, c'est il y a 5000 ans, dans les estives par exemple. Donc c'est très très ancien, c'est une pratique qui est très ancestrale.
Qu'on a un petit peu abandonné quand même à une période.
On n'a pas vraiment abandonné, on a abandonné certains secteurs. Mais le pastoralisme, dans les montagnes françaises, il a jamais été abandonné. On en parlait moins, et surtout on ne le mettait pas en évidence. On le considérait mal, même dans les années 60, on a considéré que c'était un peu une pratique un peu arriérée, on pourrait dire presque.
Et pourquoi ? Parce que finalement, on avait sous la main d'autres solutions qui semblaient plus faciles.
Parce que c'était l'époque où on raisonnait tout tracteur, mécanisation, ouais. Intensification, engrais, pesticides, etc., toutes ces choses qu'on ne peut pas utiliser en montagne.
Enfin. Donc là, on revient à ce qu'est vraiment le pastoralisme avec des...
On ne revient pas, ça n'a pas été abandonné.
Mais en tous les cas, ça n'a plus cette
connotation négative de pratique un peu arriérée.
Ouais.
C'est au contraire, c'est peut-être une pratique très moderne qu'il faut réinventer en permanence aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on a réinventé dans le pastoralisme, puisqu'en fait finalement c'est l'observation et vivre avec ce que la nature offre. Alors qu'est-ce qu'on a inventé ?
Y a plusieurs choses. Déjà, le contexte foncier a beaucoup changé.
Comment ça ?
Et le contexte humain a beaucoup changé.
Oui, alors on va parler des acteurs aussi après.
Mais... Le contexte humain, il a beaucoup changé parce qu'il y avait énormément d'éleveurs dans les zones de montagne. Et à partir des années 1860-70, ça a commencé à descendre tout doucement. Et puis, à certains moments, ça est descendu très, très vite. Et tous ces bras qui manquent, ça peut pas permettre de faire le même pastoralisme qu'autrefois.
Donc aujourd'hui, c'est un pastoralisme... Comment qui s'organise ?
Alors c'est un pastoralisme qui s'organise autour d'outils juridiques. On a des associations foncières pastorales qui permettent de regrouper le foncier, qui est tout éparpillé entre plein de propriétaires qu'on ne connaît pas d'ailleurs forcément.
Ouais.
On regroupe aussi les éleveurs qui sont de moins en moins nombreux. Autrefois, tous les éleveurs, ils venaient du village.
Mmh. Alors que maintenant, sur une parcelle en montagne, il y a des bêtes qui ne sont pas forcément
qui viennent de l'extérieur,
ouais.
C'est-à-dire qui sont ni du village ni de la vallée, qui viennent d'autres départements. Et puis, on a mis en place des conventions pluriannuelles de pâturage entre les propriétaires et les gestionnaires. Donc, en fait, les acteurs au niveau pastoral, y a les propriétaires du foncier. Alors, pour prendre l'exemple des Hautes-Pyrénées, c'est beaucoup des communes, par exemple, qui ont beaucoup de terres. Toutes les estives sont en grande partie en propriété communale dans les Hautes-Pyrénées. Dans d'autres départements, c'est autrement, mais dans les Hautes-Pyrénées, c'est beaucoup les communes qui sont propriétaires ou les regroupements de communes.
Donc, c'est,
ça, c'est le premier acteur.
Le premier acteur, ce sont les propriétaires. Les propriétaires, donc souvent les municipalités.
Oui, ou ailleurs, ça peut être des privés, ou ça peut être l'État.
Ça veut dire que derrière, il y a un système de location.
Exactement, c'est ce qu'on appelle les conventions pluriannuelles de pâturage. Et comme les éleveurs n'étaient plus très nombreux, on a créé ce qu'on appelle les groupements pastoraux, où c'est un groupement d'éleveurs pour gérer ces estives. Alors les estives, le deuxième acteur, après les propriétaires, c'est les gestionnaires. Qui gèrent ? Eh bien, ça peut être les communes elles-mêmes, qui gèrent elles-mêmes leurs estives, mais ça peut être les groupements pastoraux, les groupements d'éleveurs. Après, ça peut être à la marge d'autres acteurs qui gèrent ces estives.
Et ça c'est un modèle, enfin ça se passe bien.
Les associations de propriétaires, par exemple, peuvent être aussi
gestionnaires,
voilà. Et ça se passe. C'est comme des relations humaines. Il y a toujours, il peut y avoir des conflits, mais enfin globalement.
Ouais, enfin c'est quelque chose qui est organisé et qui.
Et voilà. Et ça, c'est des outils récents.
Ouais, d'accord.
1972.
Donc c'est très.
Donc
récent,
c'est pas ancestral ça. Ouais. Il y avait d'autres pratiques qui ressemblent à ça, mais on a créé des outils juridiques en 72 pour défendre justement ces activités pastorales.
Alors ça, ce sont les acteurs, les éleveurs. Les éleveurs sont aussi des acteurs incontournables.
Quand je disais le groupement pastoraux, c'est des groupements d'éleveurs. Donc il y a les éleveurs qui sont les propriétaires des troupeaux, mais pas forcément du foncier. Ça dépend où. Et puis ces éleveurs, ils confient leurs troupeaux à des gardiens salariés.
Des bergers, quoi.
Ou pas, ça dépend. Hein. En Pyrénées-Atlantiques, les éleveurs, c'est eux-mêmes qui gardent leurs troupeaux et qui font la traite pour faire des brebis, hein, pour faire des fromages. Mais donc ces gardiens, c'est des bergers pour les brebis ou des vachers pour les vaches. Mm-hmm. Quelquefois, c'est des gardes qui sont pas vraiment tout le temps sur les troupeaux, mais qui font le tour de la vallée pour voir si tout va bien, le tour des estives.
Ah oui, alors ça c'est important parce que du coup vous êtes en train de nous dire que les vachers ou les bergers ou les gardiens, ils veillent sur les bêtes mais aussi sur l'espace.
Eh oui.
Ça c'est quand même important ça.
Oui.
Ils ne sont pas là que pour les bêtes pour l'espace, font les deux.
Ils ont un travail qui est très pointu parce qu'ils doivent tout connaître sur les bêtes, beaucoup de choses en tout cas, mais ils doivent aussi connaître l'espace et avec les végétations qui sont intéressantes ou moins intéressantes. Ils doivent donc savoir gérer un espace pour toute une saison d'estive. Ils doivent être en relation avec les éleveurs, avec les élus. Mmh. Ils doivent être en relation avec le public qui fréquente les espaces, c'est-à-dire les autres
les gens qui se promènent. Ah oui, effectivement, parce que quand on parle des acteurs, on pourrait passer à côté de cette catégorie-là, mais il y a des gens qui promènent en montagne.
Il y a des gens qui se promènent et il y a des gens qui travaillent. Par exemple, il y a des estives qui sont dans les stations de ski et pendant l'été, il y a toute l'équipe d'entretien des remontées mécaniques, des pistes, etc., qui travaille aussi. Et puis il y a les chantiers hydrauliques, enfin les barrages.
Là vous êtes en train de nous dévoiler des coulisses qu'on soupçonne pas, ou enfin en tous les cas auxquelles on fait pas attention.
Et oui, il y a beaucoup de monde qui. Y a, alors autres acteurs qui sont dans les estives, c'est les chasseurs. En fin de saison, ils peuvent commencer à intervenir aussi. Et puis, il y a tous les environnementalistes, soit des naturalistes qui étudient
les espèces.
Les espèces, les végétaux, les animaux, ou bien des gens qui veulent s'informer, ou bien qui veulent faire de la photo. Enfin bon, il peut y avoir beaucoup de monde dans la montagne. Donc, il n'y a pas que les troupeaux, les bergers, les vachers.
Oui, alors c'est marrant parce que
éleveurs.
Quand on se promène en montagne et qu'on croise ici ou là un troupeau, on s'imagine pas que d'abord qu'il y ait autant d'acteurs autour, qu'on n'est pas seul avec, et on ne s'imagine pas non plus l'impact que ça peut avoir sur les animaux, sur le territoire. Bon là, si on est un peu malin, on peut s'en douter, mais on s'imagine pas non plus que notre passage, finalement mine de rien, il est organisé quand même. Il y a un cadre à tout ça. Ce cadre législatif, il est là aussi pour protéger tous ces acteurs. Mais j'imagine que pour que tous ces acteurs puissent cohabiter, même s'ils ne se croisent pas forcément, il y a des systèmes d'assurance, etc. derrière. Enfin,
Il y a beaucoup de choses. Vous avez, par exemple, le territoire des Hautes-Pyrénées. La plupart des estives, elles sont classées Natura 2000, ou elles sont dans les parcs ou dans les réserves.
Ouais.
Donc, il y a aussi ces cadres-là.
Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Par exemple, moi, je suis éleveur, je veux emmener mon troupeau en transhumance sur un territoire qui est dans la réserve naturelle, je sais pas moi, du Pibest. Ça change quoi pour moi, éleveur? À quoi je dois faire attention?
Ben, en fait, tous ces territoires, ils sont gérés par des conseils, on va dire,
oui.
Qui sont multipartenariales. C'est une gestion collective où tous ces acteurs dont on a parlé, leurs représentants plutôt, interviennent pour définir un plan de gestion.
Mmh.
Et donc l'éleveur, il n'est pas 100% libre. Aujourd'hui, les éleveurs d'une commune sont pas, ça dépend, mais s'il y a des pratiques, des contraintes environnementales, ils peuvent pas tout à fait faire tout ce qu'ils veulent. Par exemple,
ils se réveillent pas un matin en disant tiens allez hop aujourd'hui non. J'emmène les bêtes et j'irai les chercher dans 2 mois.
Et d'autant plus que il y a aussi des contraintes économiques. Il y a la politique agricole commune. On peut pas aller d'un seul coup dire je vais en montagne parce que j'y ai droit, etc. Parce que en fait il y a des droits à prime qui ont été définis pour telle et telle personne, et voilà, il y a des cadres économiques, il y a des cadres environnementaux, il y a des cadres techniques.
Donc pardon, mais alors je sais pas si c'est à vous qu'il faut poser cette question là, mais derrière tout ça il y a de l'administratif, il y a de la paperasse. Au micro de Radio Présence, on a souvent et on reçoit encore souvent des agriculteurs qui sont fatigués, qui en ont marre pour un tas de raisons, mais il y a quand même une raison qui remonte quand même tout le temps au-dessus de la pile, c'est la paperasse administrative. Or, vous êtes en train de nous expliquer, Véronique Lombard, que pour pouvoir vraiment bien faire le pastoralisme, ce que nos éleveurs ici dans les Hautes-Pyrénées ont envie de faire, en tous les cas beaucoup d'entre eux, eh bien, il faut qu'ils passent par cette case administrative qui est un peu lourde et chronophage et pour laquelle ils sont pas toujours, enfin en tous les cas c'est pas ce qui les passionne a priori.
Ben non, et puis mais ce qui, bon, par exemple il y a un service pastoral qui existe dans la plupart des départements, enfin dans tous les départements où il y a du pastoralisme.
Oui.
C'est des animateurs et des techniciens qui vont aider les gestionnaires d'estives à faire cette phase administrative pour faire des demandes, pour avoir des subventions, pour faire des cabanes ou pour faire des parcs de tri, mais aussi pour faire les demandes pour les primes PAC, ce qu'on appelle les primes PAC, ou pour faire des projets agro-environnementaux climatiques, les PAEC. Voilà, il y a ces services, les aides, parce qu'effectivement, ils sont noyés sous des contraintes administratives.
Voilà, on marque une pause dans cet entretien avec Anne-Rose Jankovic. À son micro, c'est Véronique Lombard qui a été professeure au lycée agricole de Vic-en-Bigorre dans le département des Hautes-Pyrénées. Avec Véronique Lombard et Anne-Rose, on parle donc, vous l'avez compris, de pastoralisme. Et la suite de cet entretien, c'est juste après le journal régional. Journal régional présenté par Lou Deneville de l'école de journalisme et de communication de Blagnac.
Face au risque de fermeture de Fibre Excellence à Saint-Gaudens, les élus se mobilisent pour faire pression sur l'État. Alors que l'entreprise traverse une crise majeure, la ville de Saint-Gaudens et la communauté de communes s'apprêtent à voter une motion de soutien. Tous ont rappelé le poids considérable de l'usine pour le territoire, 350 emplois directs à Saint-Gaudens et plus de 5000 personnes qui vivent de la filière bois-papier dans tout le sud du département. Au cœur des inquiétudes, le coût de l'électricité. Le maire de la ville s'est exprimé sur le sujet. Le prix du rachat de l'électricité est trop bas par rapport au coût de production. Nous demandons à l'État de revoir le tarif à la hausse de manière immédiate pour sauver l'usine. Ce serait une catastrophe si elle venait à fermer. Deux exploitations agricoles aveyronnaises vont recevoir une indemnisation pour les pertes de récoltes liées à l'orage de grêle d'août dernier. La commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes a reconnu en décembre dernier l'éligibilité des pertes de récoltes causées par l'orage du 12 août 2025. Sont concernées l'arboriculture et la viticulture de Mossuéjoul et Rivière-sur-Tarn, dans le département de l'Aveyron, au titre de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale. La demande d'indemnisation formulée par l'exploitant agricole sera formalisée au travers du formulaire de demande d'indemnisation format papier. Ce dernier devra être adressé avant le vendredi 6 mars à la Direction départementale des territoires de l'Aveyron, Service agriculture et développement rural. L'association Rebond et la fondation du groupe EDF annoncent la signature d'une convention de mécénat de 3 ans destinée à soutenir le projet Essai au féminin. Ce programme socio-sportif a été mis en place en faveur de l'éducation, de l'insertion sociale et de l'émancipation des jeunes filles issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville en Occitanie. En dehors de la pratique sportive, les bénéficiaires sont accompagnés individuellement dans leurs projets d'insertion sociale et professionnelle sur des cycles éducatifs menés en milieu scolaire et périscolaire. Elles le sont aussi par un accompagnement individualisé de long terme. Ce soutien financier de 24 000 euros sur 3 ans permettra de consolider et de développer les actions du projet sur les territoires, au bénéfice direct de plusieurs centaines de jeunes filles. Enfin, la 16e édition de l'Altitoy Millet, plus grande course d'alpinisme des Pyrénées, est annulée à cause d'un trop-plein de neige. Cette étape essentielle de la Grande Course 2026, prestigieux circuit international de la discipline, devait regrouper les plus grandes épreuves d'endurance de la saison dans les massifs du Tourmalet, du Pic du Midi et de Luz-Ardiden. Plus de 300 compétiteurs venus de toute la France et même d'Europe étaient attendus pour ce prélude des Jeux Olympiques d'hiver en Pays Toy. Cette année, les conditions météorologiques ventées et l'instabilité du manteau neigeux empêchent les organisateurs de proposer une compétition sécurisée. Pour l'heure, le domaine doit encore procéder à des déclenchements d'avalanches. Le rendez-vous est donc reporté à 2027.
Merci Lou de Neuville, voilà pour le journal régional. Lou de Neuville qui est étudiante au sein de l'école de journalisme et de communication de Blagnac. La suite de Présence Midi dans quelques instants, c'est avec Anne Lasserre, le regard des écrivains sur les Pyrénées. Mais pour le moment, il est question de pastoralisme sur notre antenne avec Véronique Lombard qui a été professeure au lycée agricole de Vic-en-Bigorre. Véronique Lombard est au micro d'Androse Jean-Govic.
Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Vous avez enseigné le pastoralisme au lycée agricole de Vic-en-Bigorre. Vous l'avez enseigné pendant pas mal d'années. Est-ce que entre le début où vous l'enseignez et la fin, il y a des défis nouveaux qui sont arrivés? Est-ce que les choses ont changé en bien, en moins bien? Pour vous, c'est quoi vraiment les enjeux et les défis aujourd'hui?
Alors, ce qui s'est passé pendant ma période, là, entre 2007 et 2023, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une revalorisation des aides pour les montagnes. Et donc ça a entraîné, au niveau des jeunes qu'on avait en formation, ouais, beaucoup plus d'installations en zone de montagne. Donc ça, c'est plutôt les aspects positifs.
Ouais.
Et on espère que les primes continueront à soutenir les agriculteurs de montagne. À côté de ça, par contre, il y a eu des évolutions pas faciles. Moi, j'ai vu l'évolution de l'impact des grands prédateurs,
ours et loups,
qui sont quand même vraiment un grand défi pour le monde pastoral, qui s'étaient, pour des raisons économiques, habitués à envoyer les troupeaux sans gardien, et qui finalement, ils ont été obligés de remettre en place du gardiennage un peu plus structuré. Parce que sinon, c'était pas possible, quoi. C'était le garde-manger des ours et des loups.
Oui, alors ça, c'est important quand même. C'est pas une lubie, c'est pas une légende. Oui, aujourd'hui, en 2025 ou 2026, il y a des éleveurs dont les bêtes se font manger par des ours ou des loups dans les Hautes-Pyrénées.
En tout cas, sur.
Enfin, ça arrive. C'est pas imaginaire.
Pas tout le temps, mais
On a des chiffres là-dessus. On peut dire.
On a les chiffres du nombre. Ouais, mais là, je les ai pas.
En tous les cas, c'est recensé. Recensé, ça fait l'objet de...
On n'a pas loin d'une centaine d'ours, actuellement, sans doute, dans les Pyrénées, françaises et espagnoles.
Ouais.
Les loups sont sans doute, au niveau national, pas loin des 1000. Ça se développe, ces espèces se développent. Et y a un impact sur les troupeaux. Mais pas seulement maintenant, pas que en estive, ça peut être aussi en bas. Dans les vallées, dans les plaines, etc.
Est-ce que des éleveurs renoncent au pastoralisme après l'avoir peut-être retrouvé ou tout juste retrouvé à cause de ces grands prédateurs?
Ça peut arriver, oui. Oui, il y a des gens qui n'en peuvent plus. Donc ça, c'est un premier enjeu, c'est la prédation. Mais j'ai entendu des éleveurs dire que ce qui était le pire maintenant, c'était l'activité touristique. Parce qu'il y a un tel afflux touristique sur les estives. Eux, les éleveurs, ils sont obligés d'avoir des patous ou d'autres chiens de garde des troupeaux. pour lutter contre les, principalement les ours et les loups.
Oui.
Mais ces chiens de troupeau, ils ont des conflits avec les touristes.
Et les chiens des touristes.
Qui sont et les chiens des touristes.
Qui sont parfois pas attachés, mais et c'est interdit. On
voilà,
le rappelle
donc
quand même.
C'est un deuxième enjeu. Et l'activité touristique qui s'est développée après les confinements est énorme. Et on a vu une nouvelle population arriver en montagne qui n'était pas habituée, qui ne connaissait pas du tout et qui n'avait pas les comportements adaptés.
Ça veut dire quoi ? C'est quoi un comportement pas adapté en montagne ?
C'est aller en plein milieu d'un troupeau de vaches avec des veaux et vouloir mettre un enfant sur une vache ou sur un veau pour faire une belle photo. Ben, la vache, elle n'est pas d'accord, hein. Et ou traverser le troupeau, un troupeau qui est paisible en train de manger, bon, il n'y a pas forcément des veaux, mais le traverser éventuellement avec un chien, et ben non, un troupeau ça se contourne, ça se traverse pas.
Et oui, bien sûr.
Et parce que si on le traverse, alors quelquefois on ne peut pas faire autrement parce qu'il n'y a qu'un chemin, mais la plupart du temps on peut contourner. Donc, ou courir après les vaches, les faire lever alors qu'elles étaient toutes couchées. Enfin, bon, ben, c'est dangereux. Hein. C'est des animaux qui sont lourds, ils sont dangereux. Simplement parce qu'ils sont lourds, même s'ils sont pacifiques.
Oui, même sans être agressifs, ils sont lourds et ce sont des animaux. Donc
après, maintenant, les éleveurs ont tendance à dire que le problème du multi-usage, enfin du tourisme, est plus important que les grands prédateurs parce qu'ils ont mis en place des choses. Par rapport aux grands prédateurs, c'est pas facile, mais bon, les touristes, c'est compliqué aussi.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire
Mais petit à petit, il y a des mises en place de la médiation.
Ouais.
Il y a des médiateurs en montagne, qui sont dans les zones surtout des parcs,
ouais,
qui viennent voir les touristes et qui leur expliquent les choses. Parce que personne n'est vraiment sensibilisé. Puis bon, maintenant, on n'a plus des grands-parents qui sont agriculteurs. On ne connaît pas bien. Hein. Les citadins, ils ne savent pas. Voilà, ça c'est un deuxième enjeu très important. Puis le troisième enjeu, c'est le changement climatique,
ouais,
qui provoque des problèmes de manque d'eau et d'herbe en zone de montagne, alors que c'était justement un peu la panacée jusqu'à présent.
Alors là, dans les Hautes-Pyrénées en tous les cas, mais c'est le cas un petit peu partout sur les massifs montagnards, il y a beaucoup de neige. Alors on peut se dire, s'il y a beaucoup de neige, tous les cours d'eau seront à fond, seront à bloc pour toute la période printemps, été, et pas de problème pour les troupeaux.
Le problème qu'on a maintenant, et vous l'avez constaté ce mois de décembre, janvier, c'est que il tombe de la neige, mais la neige, elle n'est pas consolidée. C'est-à-dire qu'il ne fait pas assez froid pour que la neige se transforme et reste donc au printemps longtemps.
Ouais, oui.
Elle peut fondre très très vite et si elle part, eh ben il y a plus d'eau et puis il y a quand même, il manque des orages et des pluies en été, hein, qui avant maximum on attendait 15 jours pour un orage. Là, il y a des périodes où il n'y a pas d'orage, donc il n'y a pas d'eau.
Donc concrètement, ça veut dire que pour les éleveurs, avec ces défis-là que vous nous citez, notamment le dernier, là, cet enjeu, ce défi climatique, ce changement climatique, ça veut dire, pour que tout le monde puisse quand même faire un peu de pastoralisme, que les troupeaux restent moins longtemps, ou comment ils peuvent s'organiser
ils peuvent
pour que
être
tout le monde y trouve son compte quand même.
Plutôt parce qu'en septembre, il n'y a plus d'herbe, alors que normalement, il y aurait dû y en avoir, mais il n'y en a plus.
Ouais.
Et puis on met en place des outils pour garder l'eau. Par exemple, ça s'appelle les impluviums. On creuse des espèces de grandes piscines dans la montagne. Donc la neige, elle s'accumule là et ça fait une ressource d'eau au moment où on a besoin d'abreuver les troupeaux.
Et ça existe déjà ?
Ah oui, ça existe dans les Hautes-Pyrénées.
Et il y
oui.
en a un peu partout ?
Ben, on essaye un peu partout en France, dans zone de montagne.
Et
là
qui finance ça ?
Alors voilà, un autre enjeu, c'est tout ce qui est financement.
Ouais.
Alors, il y a des départements qui soutiennent, les Hautes-Pyrénées soutiennent en particulier le gardiennage, l'aide au gardiennage. Il y a les régions, l'Europe... L'État Europe, hein, le partenariat État Europe, qui finance les travaux à hauteur, alors ça dépend des zones, ça dépend différents critères, mais à hauteur de 60 à 80% des investissements.
Donc ça réduit quand même le coût pour les éleveurs.
Mais sinon, il n'y aurait
plus
rien. Donc c'est un enjeu qui est très important, le financement. S'il n'y a plus de financement, les éleveurs ne vont pas y arriver. Un berger, si on le paye, s'il est correct, s'il travaille bien, il peut être entre 1 000, pas loin de 2 000 euros du mois, voire plus. Plus les charges sociales, plus les frais, plus il lui faut une cabane à peu près aux normes, c'est-à-dire enfin qui ait quand même l'eau, qui ait quand même un chauffage.
Oui.
Voilà, ça complique. Enfin, ça coûte cher tout ça. Mais si on veut entretenir la montagne, c'est quand même ce qui est le moins cher.
Voilà.
Les troupeaux.
Alors justement, on va bientôt arriver au terme de cette émission, mais en tous les cas sur vous dites pour entretenir la montagne. On entend parfois, alors c'est peut-être des voix ou des camps qui s'opposent, mais c'est bien aussi d'être dans le dialogue et d'essayer de se comprendre. Des personnes qui disent mais on n'a qu'à laisser la nature faire et puis tant pis, on va plus en montagne, ni les bêtes ni les hommes, et on laisse la faune et la flore se développer comme ils ont envie de se développer. Ça veut dire plus de pastoralisme non plus. Ça veut dire qu'il faudrait laisser les choses aller. Alors qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça?
Mais
en quoi le pastoralisme il sert le territoire?
Voilà. C'est une idée qu'on peut défendre effectivement. Le problème, c'est qu'on veut aussi continuer à faire du tourisme en montagne. Et les touristes, ils vont pas venir dans une montagne qui est complètement boisée, parce que là, par exemple, les Pyrénées, c'est boisé jusqu'à 2000 mètres, versant sud. C'est quand même boisé. Naturellement, ça, tout serait boisé. Personne n'aura envie de venir faire du tourisme dans un
zone boisée. Mais on fait pas du pastoralisme pour le tourisme, quand même.
Non, mais je veux dire, le paysage tel qu'on le voit aujourd'hui, il a été mis en place grâce au pastoralisme pendant 5000 ans.
Il a été façonné par le pastoralisme.
Puis, voilà. Si on arrête, et d'ailleurs il y a des zones qui sont difficiles, qui sont en déprise, c'est un des autres enjeux, des zones en déprise, ça fait des friches. Dans un premier temps, il peut y avoir beaucoup d'espèces arbustives type fougères, ronces, genévriers, rhododendrons et autres, et bruyères, etc. Mais dans un deuxième temps, tout ce qui est en dessous, en tout cas sur 2600 mètres d'altitude, c'est toute la forêt qui va pousser.
Et, oui.
Et même jusqu'à 2000. Surtout avec le réchauffement climatique. Donc, ça veut dire que c'est plus des territoires accessibles. C'est des territoires qui s'appauvrissent au niveau biodiversité. Parce qu'en fait, le fait que ça a été ouvert, qu'il y ait moins de forêts, il y a eu beaucoup plus de biodiversité dans tous ces territoires. Donc, voilà,
en fait,
on peut choisir.
Ça peut se défendre, mais il faut choisir.
Voilà, exactement. Et puis, y a des gens qui vivent dans les vallées. Alors, on va aller tous les mettre dehors. Enfin, voilà, c'est aussi humain comme enjeu.
Ma dernière question, Véronique Lombard, est au sujet de cette licence dont on a parlé, qu'on a évoquée en début d'émission, puisque en tant que professeur au lycée agricole de Vic, vous avez été très investi dans cette licence. Donc c'est une formation diplômante en 3 ans.
C'est une formation en 1 an qu'on fait après un bac plus 2. Donc soit on a fait un BTS, soit on a fait 2 années d'université.
En tous les cas, il y a un diplôme.
Ou un IUT.
Il y a un diplôme propre au pastoralisme.
C'est une licence qui s'appelle Montagne et pastoralisme. Elle n'est pas complètement fermée que sur le pastoralisme, mais c'est quand même l'axe principal de cette licence. Et l'objectif, c'est de former des animateurs qui vont accompagner, ou des techniciens qui vont accompagner l'ensemble des personnes, des gestionnaires des CIV. Souvent, les gestionnaires des CIV, ils sont plus éleveurs. C'est des élus, des communes. Ils connaissent pas forcément très bien le pastoralisme.
Donc ça s'apprend.
Ça s'apprend, voilà. Donc cette licence, elle se fait à foie, et c'est vrai que il y a eu un certain nombre de promotions qui sont sorties, et un certain nombre de ces étudiants, ils travaillent dans l'accompagnement des éleveurs, des regroupements de propriétaires, des élus, etc.
Les jeunes s'intéressent au pastoralisme. En tous les cas, ici, vous sentez que c'est un sujet qui intéresse et qui intéresse aussi les plus jeunes?
Ça intéresse certaines personnes dans toutes les générations. Mais il y en a d'autres, non.
Merci beaucoup, Véronique Lombard, pour vos réponses. On a bien décortiqué le pastoralisme. Et vous êtes la bienvenue sur l'antenne de Radio Présence quand vous voulez pour continuer à aborder ce sujet. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci à Androse Jankovic qui a réalisé cet entretien. Donc, Véronique Lombard, qui a été professeure au lycée agricole à Vic-en-Bigorre dans le département des Hautes-Pyrénées. La suite de Présence Midi, on va prendre encore de l'altitude. On va rester dans le domaine de la montagne avec Anne Lasserre et Philippe Subercase pour le regard des écrivains sur les Pyrénées dans 3 minutes.
Présence.
Ah. du froid de la rue. Quand les mots n'existent plus, quand l'espérance oubliée est dissolue, quand les alcools même ne saoulent plus, restent les phrases écorchées, ces phrases qu'on jette avant de renoncer. Les derniers seront les premiers dans notre réalité. Nous serons princes d'éternité. Un rayon de soleil au hasard, une fleur abandonnée, ce que les autres ont laissé de côté. Plus assez neuf, plus assez. Quand t'as placé tout dehors, ne reste que ces phrases comme il l'a prise. Dans l'autre réalité, nous serons princes d'éternité.
Les derniers seront les premiers. Dans l'autre réalité, nous serons princes d'éternité.
Présence dans le Lauragais 97.9.
Bonjour Anne Lasserre.
Bonjour Gilles.
C'est avec plaisir qu'on vous retrouve cette semaine. Vous allez nous présenter un texte écrit par un auteur qui a quitté il y a peu les Hautes-Pyrénées pour revenir vivre dans sa ville natale.
Oui Gilles, c'est Claude Lagenie qui est effectivement reparti vivre en Aveyron. Les Pyrénées qu'il aime pourtant n'ont pas su tout à fait le retenir, mais il y revient.
Et oui, et Claude Lagenie faisait, je crois, partie de l'association Les Mots Nomades à Tarbes.
Oui, et cette association a pour but de promouvoir les mots et l'écrit sous toutes leurs formes, des poèmes, du théâtre, de la calligraphie, etc.
Oui, et puis c'est aussi peut-être l'occasion de se rencontrer, le plaisir de se retrouver autour des mots et des livres.
Et l'occasion, Gilles, de rencontrer des lecteurs, des auteurs, des éditeurs et des artistes.
Et l'occasion d'entendre des mots et de donner envie de lire et d'écrire. On vous retrouve tout de suite, Anne Lasserre.
Claude Lagenie est né à Decazeville. En 2014, il s'installe de nouveau dans cette ville après avoir été ingénieur à France Télécom et après avoir vécu un certain nombre d'années dans les Hautes-Pyrénées. Claude Lagenie a plusieurs cordes à son arc. Il peint et il expose. Il aime aussi les mots et a fait partie de l'association Les Mots Nomades. Il lui arrive également d'écrire. Le texte retenu s'intitule « Les Pyrénées de ma vie ». « Je n'ai pas encore 12 ans », écrit Claude Lagenie. L'autobus file vers le nord et m'éloigne des Pyrénées. Nous rentrerons en Aveyron. La chaîne des montagnes étincelante de neige s'élance vers le bleu du ciel. Le soleil les teinte d'or. Ce soir, nous serons à Decazeville, notre pays noir, celui des mines de charbon, celui où je suis né. Nous sommes venus hier en pèlerinage à Lourdes avec notre curé. Après les prières, nous sommes allés à Gavarnie. Je n'ai rien vu. J'ai grelotté de froid dans un brouillard glacé.
Aujourd'hui, le soleil est magnifique, mais nous repartons. L'autobus part vers le nord en longeant un canal. Ces montagnes et cette eau qui nous accompagne impriquent leur marque à jamais au plus profond de ma mémoire. Le plateau de Lannemezan est un immense balcon. Le pic du Midi pointe son doigt vers le zénith. Vivantes, les eaux domptées des nests filent et tourbillonnent. Elles apportent la joie du printemps. Je n'ai pas 12 ans, je vis cela intensément. Nous nous éloignons des montagnes, l'eau nous suit toujours, le pic du Midi résiste et perce l'horizon. Aux environs de Toulouse, sur les coteaux du Gers, je l'aperçois encore, rose dorée avant la nuit. Je m'endors. Un demi-siècle est passé, ses souvenirs sont aussi frais qu'au premier jour. L'émotion revit à l'instant où j'écris ces lignes. Adolescent, je retournais aux Pyrénées orientales, puis centrales. Alors, la montagne était un terrain de jeu comme les autres, ouvert à nos aventures et mes premiers émois amoureux. Cependant, j'en garde le souvenir de la confrontation à des forces sauvages face auxquelles l'homme doit se faire tout petit. Ayant gravi le pic Carlite, mon premier sommet, je reçus un déluge de grêle, accompagné du terrible fracas de la foudre et d'un froid glacé. L'année suivante, le pic du Midi se refusa à moi dans la tempête furieuse qui souffla dès le milieu de la nuit, nous empêcha de dormir, puis d'aller à son sommet. Jeune adulte, étudiant à Toulouse, je fis quelques tentatives, toutes douloureuses. Une journée de ski au Mont d'Olme, une galère. Une randonnée en Haute-Ariège, un chemin de croix et les pieds en sang. Une nuit de mai à Bétaram, une insomnie glacée à grelotter. Les Pyrénées se refusaient, me repoussaient. Je n'étais pas prêt. Inconscient, immature, je ne choisissais pas le bon chemin pour les embrasser. Un temps plus tard, nouvelle tentative, plus hardie, mais tragique. Lorsque parti de la Glaire pour le Turon de Néouvielle, je dus porter secours. Une femme avait dévissé d'une crête sans nom. Une heure et demie d'agonie, une autre heure et demie à attendre l'hélicoptère. Je redescendis le cœur amer et bouleversé. Malgré cette brutalité des Pyrénées à mon égard, chaque fois que je remontais les plaines vers les sources de la Garonne, je ressentais un appel, un souffle exaltant me transportait vers ces sommets immuables, me déposait en douceur à leurs pieds, dans des altitudes où les forêts et les prairies sont égayées de mille torrents qui cascadent au printemps. C'est bien cela qui chantait en moi, ces eaux débordantes d'énergie, vives et pures, apportant le renouveau. Je l'ai compris bien plus tard. À un tournant de ma vie, je suis venue m'installer à Cap-Verne-les-Bains. Au premier été, des médecins m'ont invité à les accompagner. J'ai pu enfin découvrir la montagne, celle des immensités minérales et glacées, celle des sommets et des abîmes. Première émotion, au Néouvielle, qui restera toujours mon sommet. J'y ai noué une indéfectible amitié envers Claude, médecin thermal. Une relation d'amour m'a unie désormais à ce sommet. Je l'aime plus que tout autre. J'aime l'offrir en partage. J'aime m'y ressourcer. Le Néouvielle est un vrai sommet, d'une vraie montagne. On y accède par un chemin très classique, puis un chaos de blocs granitiques énormes, puis des névés étincelants. Ces crêtes sont vertigineuses, une véritable dentelle de roches. Le paysage est grandiose, les lacs plus bleus que l'indigo. 15 jours après, je marchais sur le glacier d'Ossou. Je fus pénétré d'un sentiment d'éternité qui me chavira. Le feu du soleil, la glace et le vent, tout imprégna mon âme à jamais. Alors les Pyrénées se sont révélées. C'était mon domaine, mon espace primordial. J'ai passé ma vie à gravir une foule de cols et de sommets. J'ai marché des heures sous le fardeau de mon sac. J'ai affronté le soleil et la soif, l'orage et la grêle. Je me suis baigné nu dans les eaux des lacs les plus hauts. J'ai glissé invincible dans les couloirs des boulis. Je me suis fait araignée dans les brèches les plus fines. J'ai hurlé mes douleurs les plus brûlantes sous la clarté pâle de la lune. Les montagnes m'ont accueillie, ont recueilli mes secrets et m'ont fait don des plus sublimes beautés de l'aurore et du calme des soleils couchants. Bienveillantes, elles m'ont apaisée. Je me suis retrouvée lorsque j'étais perdue. J'ai aimé les Pyrénées, je les ai respectées. Humblement, je me suis abandonnée à leur immuable tranquillité. Leur force minérale et millénaire m'a transformée. Engendrées dans les transes tectoniques du choc des terres d'Afrique et d'Europe, elles sont nées dans la douleur, ont grandi dans la souffrance et gardent encore les traces de leurs blessures. Ensuite, la vie les a fécondées. J'ai pris cette leçon pour ma propre vie. Évoquant ces images des Pyrénées de ma vie, je sens toujours ce lien d'amour, ce sentiment d'union de mon âme à celle de la nature et de l'univers. À leurs pieds, je sens toujours leur appel. Dans leurs bras, je revis toujours. Lorsque ma vie se sera écoulée au sablier du temps, que je brûlerai de mon dernier souffle, je voudrais m'unir à elle pour l'éternité, rejoindre le bleu des glaces dessous, me dissoudre aux eaux du printemps, pour venir murmurer aux oreilles d'un jeune enfant qui lèvera son regard vers leur sommet enneigé. Ce texte, qui s'intitule « Les Pyrénées de ma vie », a été écrit en 2013 par Claude Lajeunie et primé lors d'un concours organisé par l'association Livres en Bigorre.
Et voilà, les Pyrénées qui ont accompagné Claude Lajeunie depuis son enfance et elle l'accompagne toujours. On peut aussi préciser aux auditeurs de la radio que Claude Lajeunie est peintre également. Il dit que peindre lui permet d'exprimer son regard poétique sur la vie.
Oui, oui, et il a exposé ses tableaux en divers lieux, à Decazeville, bien sûr, mais aussi à Montauban, à Rodez, à Bordeaux, entre autres, car il a multiplié les expositions.
Et je crois qu'il a consacré une exposition au bassin minier de Decazeville.
Oui, cela a été pour lui comme une sorte de devoir de mémoire, une façon de rendre hommage à tous les mineurs de Decazeville, dont son père et son grand-père faisaient partie.
Alors, la semaine prochaine, on se retrouve à Nelasser avec grand plaisir. Je crois qu'on va parler d'Henri Russel. Grâce à Gabriel Compaéré qui s'est intéressé aux écrivains pyrénéens qui méritent selon lui de ne pas être oubliés. C'est ce que vous faites chaque semaine d'ailleurs sur notre antenne.
Oui Gilles.
Merci Anne, on vous souhaite une très bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine Gilles.
Comme nous.
Présence à Pamiers, 100.2.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Redécouvrir la joie d'évangéliser, c'est la direction indiquée par Léon XIV ce matin au monde.